Bonsoir à tous et à toutes. La Bible en 24 heures, troisième session. Ce soir, on va voir la Genèse, les chapitres 4 à 11. Et juste un petit retour sur la chute. Alors, c'est pas une histoire drôle, la chute de l'histoire. C'est au contraire le début des problèmes de l'homme. On a dit que la Genèse, c'était le livre des commencements. On a vu la création des cieux, de la terre. J'espère que vous avez pu apprécier les présentations d'André Hegen, qui croit au récit biblique et qui nous montre des raisons d'être confiant que ça pourrait très bien s'être passé comme c'est décrit littéralement. Ce n'est pas encore une fois quelque chose dont dépend votre foi complètement, mais on a trop souvent l'idée d'opposer la science d'un côté et la Bible. Et il a essayé de nous montrer qu'en fait, il n'y a pas incompatibilité, bien au contraire. Nous avons vu ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève, qui ont obéi à Satan, l'ennemi, le vieux serpent dont il est question du début à la fin, dans l'Apocalypse, il est question de lui aussi, plutôt qu'à Dieu. Et on a vu comment Satan s'était attaqué à la parole de Dieu en semant le doute dans l'esprit d'Ève et d'Adam, d'Adam et Ève, en déformant et puis finalement en opposant, en contrecarrant, en contredisant la parole de Dieu. Il s'en est pris au caractère de Dieu. Il a promis des bénéfices si on lui désobéissait. On a un passage dans le Nouveau Testament. On va le regarder ensemble. 1 Jean 2, 15, 17. C'est juste avant l'Apocalypse à la fin. C'est dans la Bible à la Colombe. C'est le verset, c'est page 270 dans le Nouveau Testament. Et là, Jean écrivait, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde dont il est question ici, ce n'est pas la terre ou les gens qui habitent sur la terre. Vous vous souvenez, le verset le plus célèbre de la Bible, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le monde, ici, c'est le système de valeurs qui rejette Dieu. C'est le système de valeurs que nous trouvons dans notre monde aujourd'hui, dans les systèmes politiques pour la plupart, dans les systèmes économiques, dans le système d'enseignement. Je sais que Daniel a été très choqué l'autre jour lorsque tout un amphithéâtre a éclaté de rire quand le professeur a dit qu'il y avait trois ou quatre personnes qui avaient cité la Bible comme leur livre favori sur un amphithéâtre de 200. Et toute la classe, apparemment, a spontanément ri pendant 2 minutes, comme si c'était la chose la plus idiote qui soit. Et ça, c'est la valeur du monde. N'aimez pas ce système, ce qui est dans ce monde. Et si on aime ce monde, si on y adhère avec affection et en y mettant toute notre énergie, alors on ne peut pas être du Père, parce que l'amour du Père n'est pas en lui. Et il cite trois choses. Ce qui est dans le monde, c'est ce qu'il appelle la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et il dit ces choses ne viennent pas du Père, mais elles viennent de ce système qui rejette Dieu. Le monde passe, sa convoitise, mais seulement celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. Les seules choses qui comptent, c'est la volonté de Dieu et de la faire. La convoitise de la chair, c'est tout ce qui est désir de possession matérielle, désir de richesse, désir de possession sexuelle, c'est tout ce qui rentre dans nos cœurs par les yeux, plutôt par notre vieille nature. Et puis à côté de ça, il y a la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, ça serait tout ce qui nous plaît parce que c'est beau esthétiquement, parce que ça paraît bien de l'extérieur. Et l'orgueil de la vie, c'est ce sentiment, ce désir ou ce sentiment qu'on a d'être supérieur aux autres parce qu'on a des connaissances, des relations, une apparence qui fait qu'on se croit supérieur aux autres. Et ces choses-là, ces choses que l'on voit à longueur de journée dans le monde qui nous entoure, c'est pas des choses qui viennent de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la chute d'Adam et Ève, il est dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça, c'est la convoitise de la chair. Elle s'est dit, ça va être bon, ça. Il était agréable à la vue, c'est la convoitise des yeux, et propre à donner du discernement. Et plus loin, le diable va expliquer qu'en fait, s'ils prennent de ce fruit, ils vont être aussi forts que Dieu, qu'ils vont être aussi puissants que Dieu leur cache cette chose. Et ça, c'est l'orgueil de la chair, l'orgueil de la vie, pardon, comme il est. Quand Jésus va être tenté dans le jardin, pardon, dans le désert, après son baptême par Jean-Baptiste, où l'Esprit de Dieu est venu comme sous la forme d'une colombe, il est dit qu'il a été attiré dans le désert, et là, Satan l'a attaqué. Et il a utilisé les mêmes ressorts. Il lui a fait voir la beauté des royaumes de la terre, la convoitise des yeux. Il lui a dit qu'en fait, s'il avait la puissance, il pouvait d'abord se jeter du sommet de la montagne, ou d'autres textes disent du sommet du temple, et que les anges de Dieu viendraient le recueillir. Ça, c'était, on peut penser que c'était l'orgueil de la vie. Et puis, l'autre chose, c'était qu'il pouvait transformer des pierres en miches de pain. Et ça, c'était aussi la convoitise de la chair. Et donc, ces ressorts, c'est ceux qui ont été utilisés par Satan à l'époque, et c'est les mêmes ressorts que Satan utilise aujourd'hui dans nos vies. C'est comme ça qu'il nous tente. Il nous fait croire que si on fait telle chose, on va avoir du plaisir esthétique, on va avoir du plaisir de la chair, ou qu'on va être puissant, qu'on va avoir l'orgueil de la vie en nous. On a vu que Dieu avait décidé de punir l'homme. D'abord le serpent. L'Éternel dit, Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Ça, on a dit que c'était en fait une annonce de l'Évangile un peu cachée, mais pas tellement cachée. En fait, on parle des fois du proto-Évangile, le plus ancien Évangile, c'est ce verset 15 du chapitre 3 de la Genèse. Dès le problème, Dieu a déjà trouvé la solution. Il va mettre l'inimitié entre Satan et la descendance d'Ève. Et par là, il parle de la descendance ultime d'Ève, qui sera Jésus. La descendance d'Ève va se faire mordre le talon, ce sera la croix, par Satan. Mais Jésus, lui, va lui écraser le talon en ressuscitant. Il mettra un terme, et plus tard dans l'Apocalypse, on verra que Satan va être battu une fois pour toutes, et qu'on n'entendra plus jamais parler de lui, il ira ira-t-il dans les temps de feu et de soufre, qui est créé pour Satan et ceux qui le suivent jusqu'à la fin. La Bible précise qu'en fait, Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden pour qu'ils ne puissent pas toucher l'arbre de vie. Et l'idée, c'était que s'ils mangeaient de l'arbre de vie en condition de pécheur, ils restent pour toute l'éternité des pécheurs. Donc, ce qui peut paraître comme une punition terrible, en fait, c'est pour préserver, beaucoup pensent, que c'est pour éviter à l'homme d'être pécheur pour l'éternité. Et on verra qu'il sera question de ce même arbre de vie dans l'Apocalypse. Et donc, nous arrivons au chapitre 4, où on nous parle de Caïn et Abel. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Ensuite, elle a un autre enfant qui s'appelle Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. On va remarquer que souvent la Bible ne suit les généalogies que celles ou ne suit que les généalogies qui vont éventuellement conduire à Jésus-Christ. Les autres généalogies, des fois, vont être démarrées, mais ce qui compte, c'est de voir comment Jésus est arrivé. Et on verra pourquoi c'est tellement important au niveau de Marie, de la femme, du Saint-Esprit, parce que nous avons un Sauveur qui sauve avec puissance grâce à son ascendance et la façon dont il est venu sur terre. Caïn, ça veut dire acquis ou procuré. Ève pensait peut-être que c'était la réponse à la Genèse 3,15. Elle pensait peut-être que c'était cet enfant, ce fils de la femme, ce descendant de la femme, qui allait venir sauver les hommes, mais ce n'était pas encore le cas. Il avait offert... Verset 3, « Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. » Un contraste avec Abel, qui lui aussi apporta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à la porte, à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Le premier meurtre de l'humanité. On peut penser que c'est un peu injuste de la part de Dieu. Il y a Abel qui offre un sacrifice qui est bien vu, et puis Caïn qui offre aussi des offrandes, des fruits du sol. Et il n'est pas regardé par l'Éternel avec un regard favorable. Et ça irrite Caïn, ça le met en colère, à tel point qu'il va même aller tuer, faire ce que les hommes font lorsqu'ils sont jaloux de quelqu'un, lorsqu'ils ont des sentiments d'envie. La violence peut se traduire verbalement, mais des fois elle se traduit par la violence physique jusqu'à la mort de l'autre. Alors on avait évoqué le fait qu'en fait, lorsque la femme et l'homme avaient péché en désobéissant à la parole de Dieu, Adam s'était couvert, avait couvert leur nudité avec des feuilles de figuier. On me dit que les figuiers, les feuilles piquent. J'ai jamais trop fait l'expérience. Mais rapidement, Dieu va leur donner des vêtements faits de peau d'animaux. Et ça, c'est presque un premier type, un premier signe que le péché conduit à la mort, conduit au sang. C'est le sang qui a été versé. Et donc, on ne sait pas si c'était clairement expliqué par Dieu. On sait que Dieu passait du temps avec Adam et Ève, la fraîcheur des soirées, avant qu'ils ne commettent leur péché. Et peut-être que Dieu leur avait expliqué déjà qu'un sacrifice, il devait y avoir des animaux, il devait y avoir du sang qui coulait pour qu'un sacrifice soit acceptable à Dieu. Et ça, bien sûr, ça nous fait penser au vrai sacrifice, le sacrifice ultime, une fois pour toutes, celui de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Sans le sang, il n'est pas possible d'avoir de pardon, nous dit la lettre aux Hébreux. Il n'est pas possible d'avoir la rémission des péchés. La vie est dans le sang et la conséquence du péché, c'est la mort. La punition du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc il doit y avoir ce sang qui coule pour apaiser la justice divine. Et ça, c'est pas clairement expliqué pour Cain et Abel, mais on pense que c'est à ce niveau-là qu'il y en avait un qui avait un sacrifice qui était accepté et l'autre qui ne l'était pas. Il est intéressant de voir que Dieu dit à Cain, ne t'en fais pas, si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu continues dans ta rébellion, dans ton péché, le péché est derrière, est tapis à la porte. Et ça, pour nous, en tant que chrétiens, on peut se dire que le péché est là, notre vieille nature est là, Satan est là, le monde sont là, il y a trois ennemis pour le chrétien. La chair, Satan, le monde et Satan. La chair est attirée par les désirs qu'on trouve dans le monde et le monde est contrôlé par Satan. Il est le prince de ce monde. Et si on ne fait pas attention, on se fait attraper par ce péché qui est comme un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. C'est Satan, c'est une description de Pierre de Satan. Mais c'est cette même idée que si on n'y prend pas garde, on va se faire attaquer par le péché, par Satan, et on va en payer les conséquences. L'Éternel, verset 9, dit à Cain, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. » Souvent, Dieu pose des questions. Et ces questions, il ne nous les pose pas pour apprendre des informations, parce que si vous ne saviez pas, sachez que Dieu connaît toutes choses, le passé, le présent, le futur. Il voit à l'intérieur de nos cœurs, il voit tout le temps. Lorsqu'il pose ce genre de questions, ce n'est pas pour qu'on lui apprenne quelque chose, c'est pour solliciter de notre part une confession. Il voulait, si Cain avait dit, en fait, je te demande pardon, Seigneur, j'étais tellement furieux du fait que tu as accepté son sacrifice et pas le mien, que je me suis laissé prendre par la colère et que j'ai porté la main sur lui, il est mort, c'est ma faute. Mais, bien sûr, comme nous, il est difficile de se confesser, de dire les paroles les plus difficiles du monde. Oui, c'est vrai, j'ai tort. Demandez à Nancy combien de fois elle doit pousser pour que j'admette que dans telle ou telle situation, j'ai tort. On a toujours une bonne excuse. On a toujours, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas de la pomme, c'était pas une pomme. On a toujours, c'est toi Dieu qui m'a donné cette femme qui m'a entraîné au péché. Et en fait, dès qu'on reconnaît notre péché, dès qu'on confesse, confesser ça veut dire, en grec, c'est le mot qui veut dire la même chose que, sous-entendu, reconnaître avec Dieu que ce que j'ai fait c'est ma faute, que ce que j'ai fait c'est mal. Et là, Dieu peut nous pardonner. Mais s'il n'y a pas de confession, il ne peut pas nous pardonner. Il est condamné, verset 11, « Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et tremblant sur la terre. » Cain dit à l'Éternel, « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. » Il se plaint de la punition, en fait, c'est pas une reconnaissance, c'est pas une confession. Oh, il dit, « C'est trop dur ce que tu m'imposes. » Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable, c'est-à-dire loin du sol qui est bon pour les cultures. Je devrais me cacher loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour ceux qui le trouveraient, pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans la terre de Nod à l'est d'Éden. Verset 17, Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Hénoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Hénoch. À Hénoch naquit Irad, Irad engendra Mehuyaël, Mehuyaël engendra Metushaël, Metushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes appelées l'une Ada et la seconde Sila. Ada accoucha de Yabal, et c'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. L'ancêtre des musiciens, l'ancêtre de Johnny Hallyday, de Elvis Presley, s'appelait Yabal. Yabal ce soir, pour vous en rappeler, c'est le 14 juillet. Yubal, pardon. C'est pas bon. Sila, de son côté, il y avait le début de la bigamie. En fait, Dieu avait dit qu'il fallait que l'homme se joigne à une seule femme, et déjà, il y avait la bigamie qui s'était mise en place. Sila, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Et ce frère, ce fils de Caïn, Tubal-Caïn, est lui l'ancêtre des fabricants, de ceux qui travaillaient le métal, de ceux qui faisaient des armes ou des instruments pour la vie courante. Donc on a le début, en fait, de la société. Il y a une certaine sophistication, et dès qu'on devient sophistiqué, on s'éloigne de Dieu, on prend deux femmes, alors que Dieu a dit qu'il fallait en avoir qu'une. Verset 17, Caïn connut sa femme. Qui était sa femme? D'où est-ce qu'elle vient, sa femme? Parce que pour l'instant, il était question que la seule femme, pour l'instant, c'était Ève, et il n'est quand même pas question d'inceste pour l'instant. Simplement, ça veut dire que on ne parle pas de toutes les personnes, encore une fois, de la Bible. La Bible raconte, cerne l'histoire des généalogies qui vont aller jusqu'au Messie. Et donc, il n'est pas question des autres enfants qui sont nés d'Adam et Ève. Mais Adam a vécu 930 ans. Il a eu le temps d'avoir beaucoup d'enfants, des filles et des garçons. Les mariages entre membres de la même famille au tout début de la race humaine ne causaient pas les problèmes de consanguinité qui se produisent maintenant lorsque des parents proches au niveau du sang ont des enfants ensemble. Et Caïn avait une sœur qu'il a épousée, avec laquelle il a eu ce fils Hénoch, et puis à partir de là, Lémec, il y en avait un seul, mais il avait 2 femmes. Et puis, Tubal-Caïn. Voilà, donc on commence à voir la société qui se met en place. Verset 25. Adam connut encore sa femme. Connu, c'est le mot connaître au sens biblique, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. À Seth aussi naquit un fils qu'il appela du nom d'Hénoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Seth, ça veut dire réservé ou appointé ou prévu pour, parce qu'elle pensait que c'était une réponse au fait que son fils Abel avait été tué par son autre frère, par son frère Caïn. On continue avec la descendance de cette lignée, cesse un enfant qui s'appelle Enoch. Et là, une chose importante, c'est là que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et ça, c'est toujours une grande nouvelle, une grande étape dans la vie d'une personne, et dans la vie d'un groupe, dans la vie d'une nation, lorsqu'on commence à reconnaître la toute-puissance de Dieu, à l'invoquer, à lui demander son aide, à le reconnaître comme qui il est. Je suis sûr que pour vous, le jour où vous avez commencé à invoquer l'Éternel, c'est une grande date dans votre vie. Pour moi, je me souviens du 16 février 1983, où j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, où j'ai dit « Oui, Seigneur, je crois que tu existes et je veux vivre pour toi. » Et ma vie n'a plus jamais été la même. Et sans doute que vous pourriez raconter aussi le moment où vous avez commencé à invoquer l'Éternel. C'est une chose formidable aussi quand un groupe, quand une église qui peut-être est loin de l'Éternel commence vraiment à invoquer le nom de Dieu, à l'appeler à l'aide, à l'appeler pour le louer, à l'appeler pour lui demander d'intervenir, à l'appeler pour lui demander de toucher d'autres hommes. Et lorsque l'on voit les réactions à la fac de droit ou de lettres, lorsqu'on voit les menaces qui pèsent au niveau professionnel sur André Hegen, parce qu'il a l'audace de dire qu'il croit au récit de la création biblique plutôt qu'aux élucubrations d'une théorie non fondée de l'évolution qui a du succès simplement parce qu'elle rejette Dieu, on peut aussi prier pour qu'un jour notre pays, que la France, que le Bénin, que le Sénégal reconnaissent que la Russie invoque l'Éternel. On arrive au chapitre 5, on en a déjà parlé un petit peu. Et j'ai une question à vous poser. Quel est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité? Mathusalem. On dit « vieux comme Mathusalem ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Voilà. Ça aussi, il y a des dictionnaires qui montrent que toutes les expressions courantes, souvent, elles ont leur origine dans la Bible. Verset 27, la durée totale de sa vie fut de 969 ans, puis il mourut. Il a vécu, c'est lui qui a vécu le plus longtemps, et pourtant, il est mort avant son père. Comment est-ce que c'est possible, à votre avis ? Parce que son père, en fait... ça serait logique, hein, mais ça serait l'insémination artificielle avant... Non, regardez, verset 24, son père s'appelait Enoch. Et Enoch, c'est... Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Tout homme doit passer par la mort, mais il y a quelques exceptions, dont ce personnage, Enoch, le papa de Mathusalem. Donc Mathusalem est mort avant son père, parce que Dieu n'a jamais fait mourir son père. On explique d'une façon très, très belle qu'en fait peut-être il marchait avec Dieu. Ça veut dire qu'il suivait Dieu, mais qu'il y avait cette intimité avec Dieu, et que peut-être un jour il était allé si loin avec Dieu que Dieu lui a dit, mais en fait, on est plus près de chez moi que de chez toi. Viens directement chez moi. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je pourrais vous renvoyer la généalogie d'Adam à Noé. On a vu que ce chapitre 5, en fait, c'était aussi une annonce de l'Évangile. Petit détail... Enoch, c'est une image, un type de l'Église qui va être enlevée avant le jugement. Ici, il va être question d'être enlevé avant le déluge. L'Église, elle va être enlevée avant la grande tribulation. Et encore une fois, il y a plusieurs points de vue, mais il n'y a aucun point de vue qui tienne la route comme celui de penser que la Bible est vraie lorsqu'elle dit que l'Église, les chrétiens vont être enlevés avant la grande tribulation. Il y a des gens qui ont des opinions différentes, mais pour moi, ça ne tient pas du tout la route. Et c'est souvent plus par fidélité à une tradition ecclésiale, à une tradition d'enseignement. Quand on regarde les faits, quand on regarde les types, quand on regarde les comparaisons qu'on voit dans l'Ancien Testament, quand on regarde tous les versets, l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Mais on y reviendra quand on parlera davantage en abordant l'Apocalypse. Encore une fois, ce n'est pas des choses dont dépend votre salut. Il y a des gens qui sont sauvés, qui n'ont pas compris. Mais pour moi, il n'y a aucun doute que l'Église est enlevée. Et ça en est déjà un premier signe. C'est un type de l'Église qui marche avec Dieu, qui est enlevée et qui ne passe pas par le jugement, qui ne passe pas par le déluge. Le type de ce récit, c'est X âgé de tant d'années engendra Y. X vécut après la naissance de Y pour tant d'années et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de ce premier nombre d'années plus ce deuxième nombre d'années. Puis, il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch. 807 ans, il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 105 plus 807, 912 ans. Puis, il mourut. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoch vécut. On voit là l'implacabilité de la mort. Sauf pour Enoch, qui est une exception, qui pour moi symbolise l'Église, qui ne va pas passer par la grande tribulation, le jugement de Dieu avant son retour. On a dit qu'en fait, les noms de ces personnes, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Yéred, suivi d'un autre Enoch avec un H, de Mathusalem et de Lémec, de Noé, c'est une déclaration, une explication, une déclaration de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Les noms, ne vous affolez pas si vous ne les notez pas, je peux vous envoyer le texte. Adam, ça vient de mon Adama, qui veut dire homme. Seth, on a vu, c'était assigné, appointé ou réservé. Enoch, c'est mortel. Kenan, c'est chagrin. Mahalaleel, ça vient de deux mots. Mahal, qui veut dire bénir, louer, et puis El, qui est le suffixe qui désigne Dieu. Donc ça veut dire que Dieu bénit. Yéred, ça vient d'un mot Yara, qui veut dire descendre. Ça veut dire que descendra ou viendra d'en haut. Enoch, avec un H, c'est l'enseignant ou l'enseignement. 21, c'est le nom de Mathusalem, c'est une prophétie. Son nom veut dire « sa mort amènera », point de suspension. On devait faire très attention à sa santé, à ce petit. Parce qu'on savait que le jour où il mourait, il se produirait des choses graves et importantes. Les mecs, on reconnaît les mots hébreux se caractérisent par des racines à des consonnes avec deux ou trois lettres généralement. Le mot les mecs, c'est le même mot qu'on retrouve dans Lamentation, qui à l'origine vient de l'hébreu. Ça veut dire ceux qui désespèrent, les mecs. Et Noé, ça vient de ce qui apporte du repos, du secours, ça veut dire le repos, la consolation. Et lorsque l'on met tous ces noms et leur signification dans l'ordre généalogique, on tombe sur le message suivant. À l'homme est réservé un chagrin mortel, mais le Dieu béni viendra d'en haut, enseignant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos, consolation. Et ça, la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a donné la chair de poule. Et ça m'a donné la conviction que ce n'est pas un groupe de rabbins qui ont essayé de trouver des noms comme ça pour donner le message de l'Évangile. C'est encore un de ces signes à l'intérieur de la Bible qui montre que la Bible est divinement inspirée. On a dit que Dieu authentifiait son message par les prophéties. C'en est une qui est présentée sous une forme un peu cachée, mais accessible à celui qui prend le temps de regarder, de rechercher le sens des noms. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Vous pouvez prendre un passage, un programme sur ordinateur ou une concordance, quelque chose de très, très, très accessible, et faire vous-même votre propre étude de texte et laisser l'Esprit Saint vous parler. Laissez Dieu vous révéler des choses. Encore une fois, il y a des choses qu'il a choisi de ne pas révéler. Généralement, c'est elle que le grand public voudrait savoir. Il nous a donné assez de choses clairement révélées pour que nous les mettions en pratique et que nous y obéissions. Le chapitre 6, c'est la perversion, la description de la perversion du genre humain. Verset 1. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. » De quoi s'agit-il? Plusieurs options, bien sûr. Quand on lit les commentaires, c'est toujours intéressant. On dit justement que les anges, lorsqu'ils veulent se détendre un peu, lisent les commentaires écrits par les hommes. Et ils rigolent bien fort. Et parmi les options, et je fais partie de ces hommes qui des fois font des interprétations qui peut-être sont très drôles et très risibles pour ceux qui connaissent la réalité. Certains pensent que les fils de Dieu, ce seraient des fils de princes qui auraient épousé des filles du peuple. C'est peu probable. D'autres parlent que ce seraient des descendants de la lignée de Seth, qui était la lignée de Dieu, en quelque sorte, après le meurtre d'Abel. Adam et Ève ont un autre fils, Seth, et ce serait par lui que la lignée des fils de Dieu donc serait arrivée, et que eux se seraient intermariés avec d'autres filles, avec des filles des autres lignées, peut-être de Caïn, de Toubal-Caïn et de Lémec et tous ces gars-là. Mais en fait, on sait que cette lignée a été détruite par le déluge. On le verra dans quelques chapitres un peu plus loin. En fait, lorsqu'il est question de fils de Dieu dans l'Ancien Testament, il s'agit toujours d'êtres angéliques. Donc il s'agit plus vraisemblablement d'êtres angéliques, d'anges. Vous souvenez que dans la mythologie religieuse, on voit les anges avec des ailes, mais que lorsqu'on lit la parole de Dieu, les anges, ce sont des messagers de Dieu qui apparaissent sous forme humaine. Il est même dit que lorsqu'on pratique l'hospitalité dans Hébreu, sans le savoir, des fois, on peut héberger des anges, des envoyés de Dieu. Il est question dans le Nouveau Testament que Jésus disait que les hommes ne prendront plus de femmes. Vous savez, on lui posait la question, si un homme n'a pas de descendants, qu'il meure et que sa femme reprenne un autre homme, qu'elle n'a pas d'enfants et qu'elle se remarie 7 fois de suite, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Et Jésus avait répondu, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Les anges ont la caractéristique par rapport aux hommes, pour l'instant, d'être éternels. Donc ils n'ont pas besoin de se reproduire, contrairement à nous. Le fait qu'ils ne prennent pas de femmes, ça ne veut pas dire qu'ils soient asexués. Je ne veux pas vous dire non plus qu'ils étaient vraiment sans parler du sexe des anges, c'est un sujet, on parle de parler du sexe des anges, en français ça veut dire parler de choses dont on ne peut pas vraiment être sûr, mais il est possible que ces êtres angéliques aient eu des relations sexuelles avec des femmes, et c'est de là qu'on aurait eu l'époque des géants sur la terre. Vous vous souvenez de Goliath, de sa famille? On parlait des Néphilim, les géants, c'était ceux qui étaient tombés, ceux qui étaient nés de la terre. Les géants, ça vient du mot « gé » qui est la terre en grec. Les gigantesques, c'était des hommes qui étaient plus grands, mais ils venaient, c'était des gens qui venaient en un mélange peut-être du ciel et de la terre. C'est ce qui avait effrayé les 10 espions dans le livre des Nombres lorsqu'ils étaient allés voir la terre promise. Et qu'ils avaient dit, il y a des géants, à côté d'eux on est comme des sauterelles, et seuls Caleb et Josué avaient dit, on s'en moque, si Dieu est avec nous, on n'a pas à avoir peur. Il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament, et encore une fois, je ne veux pas être dogmatique dans ce genre de passage, parce que c'est assez, il y a assez peu de passages, mais ils ont l'air de dire un peu la même chose dans le livre de Jude, qui a combien de chapitres? Il y a un seul chapitre. Donc on dit Jude 6, on est directement versé. Il est dit que les anges n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais ils ont quitté leur propre demeure, et cela, Dieu les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Certains pensent que c'est le fait que ces anges ne sont pas restés à leur place et qu'ils ont eu des relations sexuelles avec des filles des hommes qui ont été la source de leur péché. Il est dit dans 2 Pierre 2, 4, je crois, que si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, ça peut être aussi une référence à ce péché. On sait en fait qu'il y a 2/3 ou 1/3 des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Satan, c'était un ange de lumière qui a voulu lui aussi se faire adorer. Il en est question dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 2x14, 28. Ézéchiel 28, il est question du roi de Tyr qui voulait se faire aussi grand que Dieu, qui était un ange de... Et Satan était un ange de lumière. Il était très beau, il était très puissant. C'était le chef de la chorale dans les cieux, sans doute. Donc c'est là qu'on parle de la perversion du genre humain lorsqu'il y a ces relations qui se mettent en place. Et verset 3, l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Toute l'antiquité biblique, les légendes, mais aussi les récits de ces mythologies parlent d'hommes très puissants comme Hercule, qui était sans doute un de ces héros des temps anciens dont il est question. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que de pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé, attristé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Là, Dieu est présenté comme un homme qui regretterait d'avoir fait quelque chose. Dieu n'est pas un homme pour regretter quelque chose, il est dit dans le livre des Nombres. Dieu est en dehors du temps, il sait très bien ce qu'il fait. Ce genre de description, c'est pour nous faire comprendre un peu la réaction de Dieu comme s'il était un homme. C'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme. C'est une façon de dire que Dieu a des yeux, des oreilles pour m'entendre. En fait, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Sa création est matérielle, mais lui est esprit, et dans ses récits de la Bible, il parle comme s'il est question de lui comme s'il était d'un homme qui disait « j'en peux plus de ces hommes qui pêchent sans arrêt, il n'y a que du mauvais dans leur cœur ». Qui a écrit ces passages? On a dit que c'est Moïse qui les a transcrits. Mais comment est-ce que Moïse, qui arrivait bien plus tard, connaissait ces histoires? Alors c'est là que c'est intéressant de réaliser, encore une fois, on a du mal, de même qu'on a du mal à croire que la géologie peut se mettre en place en quelques années, parce qu'on nous a dit certaines choses qu'on a fini par acquérir, accepter dans notre inconscient, dans notre intelligence, comme des choses. On a du mal à réaliser qu'est-ce que ça veut dire un homme qui vit 930 ans comme Abraham, comme Adam, pardon. Ça veut dire qu'en fait, Adam était encore vivant lorsque Enoch, le père de Mathusalem, vivait. Ça veut dire qu'il pouvait avoir raconté ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden à Enoch, qui pouvait l'avoir transmis à Noah. Et en 2-3 personnes, on a couvert toutes ce qui semble être des centaines et des centaines d'années. Pourquoi? Parce que les gens vivaient 600 ans, 500 ans, 969 ans pour le plus vieux. Et là, d'un seul coup, on a vu que Dieu a dit « ces jours seront de 120 ans ». C'est intéressant, c'est l'âge de Madame Calment, la doyenne des Français. Elle est morte à 120 ans. Même avec les progrès de la médecine moderne, il semble qu'à 120 ans, on arrive en bout de course. La pauvre... comment elle s'appelle là? C'est pas ça. Emmanuel, qui marchait avec le Seigneur, qui resplendissait de cet amour, n'est pas arrivée à 100 ans. Elle n'a même pas touché les 100 ans, à quelques semaines près. Pourquoi est-ce que la race humaine s'est soudainement transformée au point de vivre presque un dixième de... Moi, je serais content d'arriver à 96,7, le dixième de l'âge de Mathusalem. Ça me donne encore du temps, un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'en fait, ce déluge dont il va être question, qui est un jugement de Dieu sur la race humaine, dont il était... donc il ne pouvait plus supporter le péché. On pense que une explication des déluges, des choses qui se sont passées, c'est une sphère qui aurait entouré la Terre sur une certaine épaisseur de plusieurs kilomètres qui aurait été remplie d'eau, les eaux du haut. Et cette couche d'eau uniforme expliquerait que il y avait une protection des hommes contre les radiations cosmiques, contre le bombardement qui arrive en permanence, qui fait que on explique le vieillissement de l'homme scientifiquement. On sait que par la Bible, on sait que c'est le péché qui explique la mort de l'homme et son vieillissement. Mais l'homme, normalement, les cellules pourraient se reproduire sans problème, on devrait pouvoir continuer et continuer comme le petit lapin des piles du Racel. Mais il y a ce bombardement de rayons cosmiques qui cause ce qu'on appelle les mutations dans les cellules qui font qu'au bout d'un moment, les cellules, le code génétique est affecté, que les cellules ne se reproduisent plus correctement. C'est les maladies génétiques, c'est le cancer. Il y a un dérèglement. Et maintenant, au bout de 120 ans, la mécanique est généralement déréglée. Mais il faut savoir que les scientifiques ont du mal à expliquer le vieillissement et le pourquoi de la mort. Parce qu'en fait, si ça fonctionnait sans problème, on devrait, comme on peut se reposer, on peut être rafraîchi. Le vieillissement, c'est une conséquence, nous dit la Bible, du péché de l'homme. Le déluge, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit, en dehors et en dedans et en dehors. Tu la feras comme suit. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. La coudée, c'était la longueur du bout du doigt jusqu'au coude. C'était 45 cm ou 50 cm à peu près. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui sous le ciel a souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, il en avait trois, ta femme et tes trois belles-filles. Tes belles-filles, c'est trois autres personnes. Tu feras aussi d'entrer dans l'arche deux animaux de chaque espèce vivante pour qu'ils survivent avec toi. Tu prendras un mâle et une femelle. Un couple de chaque espèce, oiseau, bétail, reptile du sol, vient vers toi afin de survivre. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en des provisions auprès de toi pour que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, chapitre 7, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi sept couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle, un couple de bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle, sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de garder en vie leurs descendants sur toute la surface de la terre. Car dans sept jours, moi, je vais faire venir la pluie sur la terre, 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge survint sur la terre. Avant, il nous était dit on verra plus loin jusqu'à quel âge il a vécu. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et ses belles-filles pour échapper à l'eau du déluge. D'entre les bêtes pures et les bêtes qui ne sont pas pures, les oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol, il entra dans l'arche auprès de Noé des couples, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et ses trois belles-filles, entrèrent dans l'arche avec tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon chaque espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tout ce qui vole et qui a des ailes. Il entra dans l'arche auprès de Noé des couples de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge dura sur la terre pendant 40 jours. Les eaux montèrent et emportèrent l'arche qui fut soulevée au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et montèrent énormément sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux étaient de plus en plus grosses sur la terre. Toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent couvertes. Les eaux couvrirent les montagnes et les dépassèrent d'une hauteur de 15 coudées, plus haut que le mont Everest. Tout ce qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les êtres humains, tout ce qui était animé d'un souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre sèche mourut. Dieu effaça tous les êtres qui étaient à la surface de la terre, ils furent effacés de la terre, il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant 150 jours. Dieu se souvint de Noé, vers chapitre 8. De tous les animaux et de tous les bétails qui se trouvaient avec lui dans l'arche, Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie cessa de tomber. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier du mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, et vous connaissez l'épisode, où il lâche le corbeau qui ne trouve pas de perchoir, il lâche une colombe qui revient d'abord et puis qui finalement revient avec un bout d'olivier, verset 11. Donc Noé sut que les eaux avaient baissé sur la terre, et puis finalement, 7 jours plus tard, la colombe qui est lâchée ne revient pas. L'an 601, du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé écarta la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Alors Dieu parla à Noé en lui disant de sortir de l'arche, en encourageant les animaux à se répandre sur la terre, à se reproduire. Verset 20 du chapitre 8, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il fait un sacrifice à Dieu, consécration totale. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Le récit du déluge. Certains pensent que c'est une jolie fable. D'autres, comme André Hagen, pensent que c'est une façon beaucoup plus logique d'expliquer les fossiles qu'on trouve sur les hauteurs du mont Everest. C'est une façon plus logique d'expliquer l'apparition des montagnes. Ces sources d'en haut se seraient ouvertes, cette masse d'eau serait tombée causant des bouleversements géologiques. Les fossiles, on vous a dit, c'est des animaux qui sont morts sur des millions d'années. C'est du barata. C'est de la bêtise pure. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des fossiles quand vous allez vous baigner avec votre masque dans la baie des Anges? Est-ce que vous voyez des poissons, des arêtes qui se couvrent légèrement de sédiments? Non, bien sûr que non. Il a fallu un cataclysme pour causer la mort brutale de ces animaux et leur sédimentation dans des couches. C'est ce que André Hagen expliquait en parlant du mont Sainte-Hélène. Et le déluge, c'est une réalité mondiale. Quand on lit les mythologies, les récits anciens dans toutes les civilisations, il est question d'un déluge. Il est question d'eau qui est montée à la surface, qui a englouti. C'est bien normal. Un déluge, si l'eau monte ici, on connaît la théorie des vases communicants, l'eau va se répandre partout. Le récit biblique est beaucoup plus en phase avec ce que l'on constate. On dit bien sûr, mais c'est ridicule de mettre tous les animaux sur un seul petit bateau. Les structures données par Dieu à Noé, qui n'avait jamais vu la pluie tomber, qui n'avait jamais été au bord de l'eau, c'est des proportions qui sont en accord avec la science moderne pour construire un bateau. C'est un bateau qui est beaucoup plus long. Il aurait fait près de 150 mètres sur 25 mètres, avec 15 mètres de haut. Dans d'autres récits, il est question d'un cube. Un cube ne flotte très très mal. La surface, il y a 3 étages avec cette structure. Vous pouvez faire vous-même le calcul. Vous arrivez à près de 12 000 mètres carrés. Une idée, c'est à peu près la surface de Carrefour Lingostière. Est-ce qu'il serait possible de mettre un grand zoo dans Carrefour Lingostière? Bien sûr, il y aurait beaucoup de place pour mettre des animaux de toutes les espèces. Il y a 270 histoires d'inondations dans les récits antiques. Le déluge a été universel. Les animaux, il y avait des provisions pour 371 jours. On a vu l'embarquement, on avait des précisions sur la date, verset 11. Ce n'est pas une légende, il y a le 17e jour du mois, du deuxième mois de l'an 600. C'est Dieu qui a amené les animaux à l'arche. C'est Dieu qui a fermé la porte. Il n'y avait qu'une seule arche et qu'une seule porte pour trouver le salut et éviter au jugement. Il n'y a qu'un seul par qui nous pouvons être sauvés. Pas par Bouddha, c'est pas par Mahomet, seulement par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre donné sous les cieux parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre façon. L'arche de Noé est un symbole de Jésus, en qui seul nous avons le salut. Le Nouveau Testament nous parle de cet épisode. Jésus parlait de cet épisode comme de quelque chose qui était authentique. Hébreux nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Lui aussi a fait preuve de foi. Dieu lui a demandé de faire quelque chose qui était absolument ridicule. Personne n'a jamais. Les gens venaient lui demander, mais qu'est-ce que tu fais ? Pendant 120 ans, il a construit une chose que personne n'avait jamais vue au milieu de la terre ferme, en pleine terre ferme. Mais la foi, ça reste la clé de la faveur de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Il est question aussi dans 2 Pierre 3, on peut regarder ensemble. 2, il est question des gens qui se disent, la Bible parle du retour de Dieu, on ne voit rien arriver. Il parle des faux docteurs au 2, page 267, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement, s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes, dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, etc. C'est donc, verset 9, que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Il parle un peu plus loin, au 3, verset 3. Sachez, page 268, sachez avant tout que dans les derniers jours, il deviendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront sur leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ?» Où est la promesse de son retour ? Vous nous dites, vous les chrétiens, que Dieu va revenir. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par de l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Ça, c'est la grande tribulation, c'est la fin de la terre. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il veut que tous arrivent à la connaissance, à la repentance. Il ne veut qu'aucun périsse et il use de patience envers nous. Il est question, Jésus a parlé du monde qui vit aujourd'hui comme le monde vivait à l'époque de Noé, en mariant leurs enfants, en vaquant à leurs occupations, en vivant au jour le jour, en se préoccupant pas de Dieu. Nous aussi, c'est pour nous avertir que ces choses ont été écrites. Il va y avoir, comme il y a eu une première déluge, il y aura un déluge de feu. Mais si nous sommes en Christ, nous serons nous aussi sauvés, nous échapperons à ce jugement. Dieu fait une alliance, vers chapitre 9. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang, mais aussi je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. » Je le réclamerai à tout animal et je le réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image et vous soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu ensuite établit son alliance avec Noé et sa descendance. Et il est question que l'arc-en-ciel, l'arc sera dans la nuée, sera un souvenir de cette alliance pour dire que Dieu ne va plus détruire la terre comme il l'a fait à cette époque. Juste une remarque. Rien n'est dans la Bible par hasard. Lorsque vous voyez un détail, vous avez le devoir de vous demander pourquoi il est là. Pourquoi est-ce que le 17e, on a vu ça, c'était verset 4 du chapitre 8, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. En fait, si on regarde pour Jésus, on s'aperçoit qu'il y avait deux calendriers. Il y avait un calendrier civil à l'époque en Israël, à l'époque de Jésus. Il y avait le Rosh Hashanah, c'était le jour de l'an qui vient d'être célébré par les Juifs il y a quelques semaines. Le mois de Tishri. Et puis il y a le septième mois qui était le mois de Nissan. Ça, c'était le calendrier religieux. Et d'autres passages nous disent qu'en fait, Jésus a été crucifié à Pâques, le 14 du mois de Nissan. Et s'il a été 3 jours dans la tombe, ça veut dire qu'il a été ressuscité le 17e jour du mois de Nissan. Jésus a été ressuscité le 17e jour du 7e mois, comme ce verset qu'on vient de lire, l'arche s'est arrêtée le 17e jour du 7e mois. Ça aussi, c'est un de ces détails, si ça ne vous donne pas la chair de poule, de réaliser l'imbrication de l'ancien et du nouveau et comment Dieu authentifie sa parole avec toutes ces choses que des ordinateurs ou que des gens n'auraient pas pu mettre en place. On sait que la Bible a été écrite sur 1500 ans. Par 40 auteurs, en 3 langues, sur 3 continents, des gens de tous les milieux. Non, c'est des authentifications de sa parole. Le chapitre 10, il est question des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Et puis au chapitre 10, il est question des nations issues de ces 3 fils. Les descendants de Noé, il y a Japhet. Lui, il a été l'ancêtre de Gomer. Aujourd'hui, on pense que Gomer, c'est l'Allemagne, les pays germaniques. germanique, Gomer, c'est la même racine qu'en hébreu. Magog, ça c'est la Russie. Javan, c'est la Grèce. Kittim, c'est Chypre. Tubal, Tobolsk. Méchec, c'est Moscou. L'autre fils, c'est Sem, c'est les pays du Moyen-Orient. Il y a eu un descendant qui s'appelait Héber, c'est l'ancêtre des Hébreux. Peleg, Nahor, Teram, Abraham, c'est le peuple du Moyen-Orient. Il y a aussi Cham, qui a eu comme enfant Cush. Aujourd'hui, on pense que Cush, c'est l'Éthiopie. C'est aussi Put, c'est la Libye. Canaan, c'est aussi le monde des Asiatiques, Chinois. Mitzrayim, c'est l'Égypte. Et donc, il y a, à partir de ces descendants, à partir de ce chapitre 10, il y a ce qu'on appelle la roue ou la table des nations, qui, au chapitre 11, il y a l'épisode de la tour de Babel, et puis, où les hommes veulent se faire grands. En fait, c'était une adoration des astres. Encore une fois, l'homme, au lieu d'adorer son créateur, adore sa création. Ça, c'est très mauvais lorsqu'on adore la créature au lieu d'adorer le créateur. Et là, la fin du chapitre 11 nous amène jusqu'à Théra et à son fils, à son descendant Abraham. Donc maintenant, la prochaine fois, on va voir un nouveau chapitre dans ce récit de l'histoire du monde. Abraham, à qui Dieu va faire une promesse. Une promesse qui sera un sujet de réjouissance pour ses descendants qui vont être le peuple hébreu et les juifs, mais qui doit aussi nous réjouir parce qu'à travers cette promesse de bénédiction, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà, donc je suis désolé, ça va un peu vite, c'est difficile de tout survoler, mais est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu rapidement? Alors, les explications, les nations issues des fils de Noé, il est de bon ton maintenant de prendre ça comme des légendes. Il est intéressant aussi d'essayer de les prendre plus à la lettre et d'analyser un peu les noms des peuples qu'on a aujourd'hui dans les différents continents et d'essayer de voir s'il n'y a pas une relation, comme on l'a évoqué. Dans l'Apocalypse, il y a aussi et dans Ézéchiel et Ésaïe, on peut des fois retrouver des nations, penser que telle ou telle nation, l'Égypte, c'est Mitzrayim, c'est essayer de voir des noms de peuples d'aujourd'hui. Oui, pardon. Ça serait les habitants de Cham. Ça serait les mêmes. Je devrais vous envoyer une carte qui vous montrera les tableaux à partir de ça. Je vous enverrai quelque chose par internet si vous m'avez donné votre adresse. Il n'y a pas de racisme? Il n'y a pas de raison pour le racisme? On descend tous d'un homme et d'une femme. Et Dieu, à partir de Noé, a repeuplé la terre. Donc c'est des passages qui sont très riche à étudier en détail. Ça fait un moment qu'on n'a pas étudié la Genèse. On a commencé par là, il y a plusieurs années. Peut-être on y reviendra plus rapidement parce que c'est souvent le début et la fin. Des fois, on étudie la Genèse et l'Apocalypse pour montrer la correspondance et voir que tous les passages intermédiaires, en fait, se nourrissent de l'un pour aller vers l'autre. Il y a une merveilleuse harmonie, encore une fois, dans la Bible et dans le récit biblique. Et les étudiants qui ont choisi la Bible comme livre favori par rapport au parfum de Suskin ou quels autres livres font bien de le faire. Amen. Une ou deux questions ? Voilà, alors il est fascinant de savoir qu'il y a des recherches qui ont été interrompues maintenant avec le gouvernement turc pour rechercher sur les flancs du mont Ararat des bouts de bois qui auraient pu, des morceaux de bois putréfiés ou pétrifiés qui auraient pu être des morceaux de bois venant de l'arche de Noé. Quelqu'un a vu du bois au-delà des forêts, après, à savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient du déluge. Il y a des tas de recherches. Quand j'ai commencé à étudier la Bible, je me suis toujours dit, faire de l'archéologie biblique, ça doit être merveilleux. Tout en restant scientifique, pas en cherchant des preuves à ce qu'on croit, mais en regardant les faits et en ayant une petite idée que bien souvent, on va trouver une confirmation du récit biblique et non pas une contradiction avec le récit biblique. Voilà, donc dans une autre vie, si on avait le choix, j'aurais bien aimé être Indiana Jones.